Derrière la magie du sport de haut niveau se cache une triste réalité d'athlètes malmenés et abusés. Et pour que ça cesse, il faut en parler.
Avec Jean-Luc Brassard, l'envers de la médaille. Mardi, 20h, sur la chaîne Témoin. Débrouillez dès maintenant.
Vincent Desureaux.
La seule émission de radio qu'on aimerait swiper à droite. Vous écoutez Vincent Desureaux.
On va parler politique internationale avec Loïc Tassé. Bonjour Loïc.
Bonjour Vincent.
On se déplace tout de suite aux États-Unis avec Donald Trump. Beaucoup de sujets quand même qui le concernent. Lui qui menace de couper le financement d'écoles qui n'ouvriraient pas.
Oui. Tu sais, j'évite de parler de Donald Trump tous les jours parce que je pourrais le faire. Oui. Mais tu sais, à un moment donné, tu dis ça devient redondant. Il y a une telle bêtise dans ses déclarations. Mais il y en a qui sont vraiment plus fortes que d'autres. Et aujourd'hui, il vient d'en faire, dans le domaine de l'éducation, quelques-unes de pas mal gratinées. Par exemple, il vient de texter, n'est-ce pas, que l'Allemagne, le Danemark, la Norvège, la Suède et d'autres pays avaient rouvert leurs écoles primaires. Et donc, il a dit aux États-Unis, ben, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas la même chose? En fait, si vous n'ouvrez pas les écoles, moi, je vais couper vos budgets. Je me suis dit, non, j'ai pas bien vu. Il vient pas de faire une comparaison entre les pays scandinaves et les États-Unis. Parce que dans les pays scandinaves, même en Suède, l'épidémie est à peu près jugulée, là. Il n'y en a plus de coronavirus. Tandis qu'aux États-Unis, c'est galopant. Ils viennent de franchir la barre des 3 millions de cas. Ça augmente constamment. Il y a 139 000 morts. Ça n'a rien de comparable avec les pays scandinaves. Puis il dit, il faut que les gens retournent à l'école. Ah oui, parce qu'il rajoute, c'est un coup des méchants démocrates. Ils veulent me faire perdre mon élection au mois de novembre. Il faut que les enfants rentrent à l'école. Là, tu dis ça, puis tu dis, mais c'est du pur délire.
Parce que de comparer un pays qui dont la fameuse courbe n'est pas aplatie du tout versus des pays où c'est sous contrôle et où il y a comme chez nous, un certain nombre de cas assez stables par jour, ça fait pas de sens.
C'est la même chose. C'est nous, au Québec, on a fermé les écoles justement pendant longtemps, et à Montréal encore pendant plus longtemps, parce que justement la courbe n'était pas aplatie, puis tout le monde dit, ben oui, c'est malheureux, on préfère que les enfants soient à l'école, mais dans les circonstances, c'est ce qu'il faut faire. Mais non, Donald Trump menace de couper le budget. Puis, t'as le MIT, puis Harvard, qui sont en train de poursuivre le gouvernement fédéral, donc en fait, à cause d'une décision de Donald Trump, parce que M. Trump a aussi décidé de ne pas donner de visa aux étudiants dont les cours seraient principalement des cours en ligne. Alors, à première vue, tu te dis, ah ben oui, si un étudiant qui est en Europe ou en Asie, etc., veut venir aux États-Unis pour étudier, mais que ses cours sont en ligne, ben c'est bien sûr qu'il n'y a pas besoin de se rendre aux États-Unis. Jusque-là, on suit. Mais c'est pas ça qu'il a dit. Il a dit, les étudiants qui sont en ce moment même aux États-Unis et qui, en raison de politique des universités, n'auront pas de cours à l'université même en septembre, ben eux aussi, on va révoquer leur visa, on ne leur donnera pas de visa. Ils vont être obligés de rentrer chez eux. Là, tu te dis, mais non, mais encore une fois, vous êtes tombé sur la tête ou quoi, M. Trump, là? Parce que c'est temporaire, tout ça, et ça vous faudrait qu'ils déménagent leur pénate et tout ça. Puis attention, là, les étudiants étrangers qui sont au MIT, qui sont à Harvard, c'est des étudiants qui sont souvent dans les cycles supérieurs, à la maîtrise et au doctorat, qui donnent des cours, des gens qui font de la recherche, surtout, ils font partie de grandes équipes de recherche.
C'est des gens que tu veux dans le pays. Et je pense quand même à un problème, c'est peut-être secondaire, mais reste que si tu es dans, je sais pas, un étudiant d'origine chinoise ou du Japon, le simple décalage horaire pour un étudiant très avancé qui doit parler à ses professeurs, qui doit avoir des cours en ligne, en direct, ça devient tout un casse-tête aussi, là.
Absolument. Et d'ailleurs, ça pourra pas se faire. Les cours en ligne, ce sera pas des cours en direct nécessairement. Je t'annonce ça tout de suite. C'est pas possible d'avoir ça. Tu vas avoir des cours, tu vas avoir des capsules, tu vas avoir toutes sortes de choses, mais ce sera pas possible facilement pour les étudiants d'être en direct. Ça, c'est certain. Puis l'autre chose, donc, c'est que donc ces universités-là qui ont 40% qui ont annulé leurs cours, tous leurs cours en classe, ben elles disent non. Écoutez, c'est cruel ce que vous faites là. Puis ça nous désorganise complètement. Vous n'avez pas pensé ni aux étudiants, ni aux employés, ni aux professeurs. Vous n'avez pensé à personne. Nous, on fait ça pour la santé de ces gens-là, puis vous nous forcez à rentrer. Et là-dessus, on apprend qu'en fait, il n'y a que 9% des universités aux États-Unis qui vont donner leurs cours en ligne. Et là aussi, tu te dis, oh, c'est intéressant, ça. Parce que les universités savent très bien qu'il y a une pandémie aux États-Unis en ce moment. Mais l'appât du gain est plus fort. Aux États-Unis, les universités sont souvent des business. Ce sont des universités qui doivent absolument avoir des étudiants sur le campus. Ça coûte très cher d'étudier aux États-Unis à l'université. Et donc, il y en a beaucoup aussi, on en a déjà parlé, qui pensent peut-être être obligés de faire faillite si jamais ils ne peuvent pas recevoir d'étudiants sur le campus. Donc, tu as tout ça en arrière-plan. C'est vraiment pas beau.
Et toujours sur Trump, puisque c'est lui qui s'est mis à pointer du doigt à un certain moment l'OMS, a coupé les budgets, ben là, les États-Unis se retirent officiellement de l'Organisation internationale.
Oui. De la santé, l'Organisation mondiale de la santé. Et Trump avait raison de blâmer l'Organisation mondiale de la santé. Je te dis pas qu'il y a raison. Ça, c'est encore du pur Trump. Il est très bon pour identifier des problèmes, mais ses solutions sont souvent pires que le mal. Qu'est-ce qu'il a fait? Il vient de notifier officiellement donc les Nations Unies qu'il allait se retirer, que les États-Unis allaient se retirer de l'Organisation mondiale de la santé le 6 juillet 2021. Donc, c'est 15% du budget de cette organisation-là, donc 400 millions de dollars. Pour quelle raison? Ben, il dit, écoutez, ça a été, il le dit pas tout à fait comme ça, mais c'est vrai, c'est une organisation qui a été noyautée par la Chine, et donc cette organisation-là est extrêmement gentille avec la Chine, en laisse passer beaucoup. Cette organisation, est aussi responsable de ne pas avoir demandé l'arrêt des vols aériens entre les pays assez tôt, parce qu'elle a cru les Chinois quand les Chinois disaient que la COVID-19 ne se transmettait pas de personne à personne. Alors, effectivement, il y a un gros problème. Et Trump dit, écoutez, il n'est pas capable de réformer le directeur qui est là, qui est un Éthiopien, il n'est pas capable de réformer cette organisation, c'est vrai. Mais est-ce qu'il faut en sortir pour tout autant? Non. Là, si tu sors de là, t'as plus de pression, tu peux rien dire, t'es plus là, t'es plus présent. Et l'Organisation mondiale de la santé, ça fait pas juste lutter contre la COVID-19, ça s'occupe de vaccination mondiale, ça s'occupe de programmes mondiaux dans toutes sortes de domaines, ça coordonne la recherche mondiale en santé. C'est bien évident que si les États-Unis sont pas là, la santé mondiale l'état de la santé mondiale va en prendre un coup, va décliner. Très mauvaise décision des États-Unis. Et ça laisse la place à qui? Ça laisse la place à toute la Chine.
D'ailleurs, on confirme là, que c'est maintenant 3 millions de cas aux États-Unis. On s'y approchait, là, mais c'est les chiffres de John Hopkins qui sont suivis beaucoup par les médias américains. Mmh. Et on mentionnait, là, ça a pris 99 jours à atteindre le premier million, 43 le deuxième et 28 le troisième. Alors, ça montre que ça s'accélère malheureusement la situation aux États-Unis. Quoique les décès sont en forte baisse, il faut le dire, mais
oui, parce que c'est les jeunes qui sont atteints principalement et les jeunes meurent moins de la COVID-19 que les gens plus vieux. Mais ça vient de remonter aussi, le nombre de morts a remonté récemment et donc ça pose aussi un problème.
Et l'âge moyen en Floride vieillit là, à peu près à chaque jour ou dans tous les quelques jours d'une année. On était à 36, 37, 38, 39, là, on est rendu au-dessus de 40 ans la moyenne, alors malheureusement ça vieillit aussi. En terminant rapidement, Loïc, revenir sur cette lettre, notre collègue Sophie Durocher l'a mentionné en début d'émission, 150 écrivains célèbres, dont J.K. Rowling, évidemment très connu, et d'autres, publient une lettre commune pour défendre la liberté d'expression et critiquer cette vague de ce qualifié de censure là, imposée par une rectitude politique ambiante.
Mais oui, parce qu'il y a des éditeurs qui ont été renvoyés parce que dans leurs journaux, ils avaient fait paraître des lettres d'opinion qui n'étaient pas nécessairement de l'opinion générale des lecteurs du journal. On pense au New York Times. Il y a des journalistes à qui on interdit d'écrire sur certains sujets dans certains journaux. Il y a des professeurs qui sont sous enquête parce qu'ils ont cité des ouvrages dans leurs cours, tu sais, etc. Là, tu dis, un instant, là, c'est parce que vous mêlez une chose et l'autre. C'est une chose que d'avoir débattre d'idées, c'est une autre chose la personne qui soutient ces idées-là. À l'université, c'est la première chose qu'on enseigne aux étudiants. On leur dit, écoutez, dans un débat, tout le monde se respecte, vous pouvez avancer l'idée que vous voulez, pourvu que ce soit fait dans le respect. Ça se peut que vous vous fassiez ramasser, par exemple. Ça se peut que ce soit très viril comme débat, mais c'est comme ça qu'on avance les idées, puis il n'y a aucune idée qui est taboue. Mais ce qui arrive en ce moment, c'est qu'il y a une telle rectitude politique qu'il y a des gens qui se font littéralement humiliés sur la place publique, qui se font ostraciser parce qu'ils osent avancer des idées. Ben, un instant, et c'est ce que cette lettre dit, elle dit, c'est pas avec le silence qu'on va arriver à vaincre les mauvaises idées. Au contraire, il faut les exposer, il faut argumenter contre elles, et il faut persuader. Le silence, c'est la pire des choses. Et ça nous plonge en fait dans un régime qui ressemble un peu au régime totalitaire où plus personne n'ose parler parce que tout le monde est terrorisé. On veut pas que les gens soient terrorisés d'exprimer une idée, voyons. Et je pense que c'est bien que ces 150 personnes aient fait ça.
Et effectivement, j'invite les gens à aller lire la lettre au complet qui est vraiment bien écrite. Je pense qu'ils ont bien choisi leurs mots, alors ça en fera peut-être réfléchir quelques-uns. Loïc, un immense merci, on se reparle demain.
Salut, à demain.
Salut.
Entre deux lavages de mains,
on va ouvrir certains robinets.
Vincent Desureaux commente l'actualité avec vous. Cube Radio. Un été.